nos invités, un poète philosophe, des préludes Henri Malmande, des chants, des épigrammes, des dithyrambes, un prince hors la loi ou prince aigle fin, et une toute première vue d'ensemble des poèmes de Nietzsche avec Guillaume Métayer et Marc Delaunay.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Guillaume Métayer, Marc Delaunay, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue bonjour. À tous les deux. Une heure et Nietzsche, donc c'est un peu court, je vous l'accorde. Nietzsche en poète, ça l'est presque davantage encore, tant sa poésie a manqué à l'exégèse et à la bibliographie. Ces choses réparées avec la toute fraîche parution, enfin, des poèmes complets du philosophe et philologue aux éditions Les Belles Lettres, une somme exhaustive. Bilingue, hein, traduite, présentée et annotée par vos soins, Guillaume Métayer. De traduction, alors il va évidemment être question tout à l'heure, hein, mais en préambule, le bilinguisme, c'est pour vous un principe, un parti pris de traducteur, Guillaume Métayer ?
Ah oui, c'est un principe et un parti pris de traducteur, absolument. Je pense qu'il est très, très important de pouvoir revenir au texte original, à la fois pour les lecteurs, bien sûr, mais aussi pour le traducteur. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé en traduisant ces poèmes, d'autres langues, c'est qu'à chaque fois que je rencontre une difficulté de traduction, je trouve la solution dans la langue originale et pas dans la langue française. C'est-à-dire que je vais me ressourcer dans le texte et c'est là que l'élan m'est redonné pour trouver une solution, notamment même une solution de rime, simplement.
Alors, au fil de ce copieux volume, hein, défilent les poèmes tressés ou incrustés même dans l'œuvre philosophique. Je pense notamment à ceux qui encadrent évidemment Le Gai Savoir dès l'édition de 1887, hein, ceux qui enrichissent, mais aussi ceux qui donnent impulsion ou se font lieu ou même forme, hein, de la pensée nietzschéenne, mais aussi et surtout les poèmes de jeunesse, hein, du tout jeune Nietzsche, âgé de 10 ans. Un poème à sa tante, hein. Ceux qui complimentent sa mère, hein, jusqu'au tout dernier poème, plus essoré, plus accidenté aussi, hein, d'avant l'effondrement de Turin en 1889. Une somme, et j'imagine Guillaume Métayer, germaniste, traducteur de l'allemand et du hongrois, c'est une somme, en même temps j'imagine que c'est une durée. Comment est-ce qu'on sort d'une fréquentation si assidue de la poésie de Nietzsche ? Est-ce que le monde s'en trouve changé ?
C'est vraiment une longue fréquentation, et en effet, vous parliez des poèmes de jeunesse, il y en a beaucoup, ils sont très peu connus, je ne les connaissais pas, je les avais aperçus, entreaperçus, comme ça, en feuilletant les œuvres complètes, mais je ne les avais pas vraiment lus, ou pas vraiment, je ne m'y étais pas appesanti, et c'est la fréquentation d'un jeune poète en particulier, qui m'a fasciné. Ça va beaucoup plus loin qu'un entraînement à la poésie, pour moi c'est vraiment une exploration du monde par le vers, par le poème. Donc une exploration de l'histoire de France, de l'histoire de l'Allemagne, une exploration des régions, de sa région natale, de la nature, de ses sentiments, de ses émotions. Et donc j'ai l'impression d'avoir fréquenté quelqu'un d'une certaine façon. Donc j'en sors pas, c'est-à-dire que j'ai rencontré un autre Nietzsche et je ne l'ai pas quitté pour autant.
Alors c'est précisément de lui dont il va être question dans l'heure qui suit. Question essentielle, dites-vous dans votre longue introduction, quelle serait la valeur de la poésie pour Nietzsche ? Alors évidemment, je ne vais pas vous demander d'y répondre tout de suite, et encore moins en une minute. Autre question donc, Guillaume Métayer, et ça c'est encore une obsession de l'œuf et de la poule, est-ce qu'on parlerait de poète-philosophe ou de philosophe-poète ?
Bon, vous avez vous-même disqualifié votre question par le fait la poule, donc je ne vais pas essayer d'y répondre vraiment. Je dirais qu'il y a poète-philosophe, mais il y a aussi poète-philologue. Ça aussi, ça me semble intéressant, c'est-à-dire que c'est une exploration du monde par le langage, et une exploration, bien sûr, du langage par la pensée. Et les interactions entre les trois termes sont constantes et vont dans tous les sens. La poésie sert la philosophie, elle sert à explorer des idées, mais aussi à les exprimer au plus près. D'un autre côté, la philosophie aide la poésie, elle l'aide à explorer des territoires qu'aucun poète romantique de son temps n'aurait eu l'idée d'explorer, parce que il n'était pas dirigé par une pensée aussi approfondie, en tout cas pas une pensée de ce type, de type philosophique. Donc la philosophie, la pensée, est aussi un guide dans des découvertes poétiques. Et bien sûr, la philologie, dans le sens où il s'agit de langage, il s'agit d'exploration d'une tradition textuelle, mais aussi dans le sens dont parlait un chercheur allemand qui s'appelle Christoph König, qui explique comment le poète philologue, c'est aussi un philologue qui se relit lui-même et à partir de cette relecture, se relance dans l'écriture poétique.
Marc Delaunay.
Oui, je suis absolument d'accord. Le Nietzsche est le premier philosophe moderne qui ait si radicalement mis la poésie au premier plan, pas simplement en écrivant des poèmes, mais au premier plan de l'écriture philosophique elle-même. C'est-à-dire que la descendance poétique de la philosophie, la dette poétique contractée par la philosophie est mise en avant, de manière même parfois très provocatrice. Alors d'accord, à travers des poèmes, ça va de soi. Vous avez évoqué tout à l'heure les poésies qui encadrent le Gai Savoir. Ce sont des poèmes qui achèvent par de la bien et mal aussi. C'est une allégorie poétique que crée Nietzsche à travers le Zarathoustra. Donc la poésie, non seulement est au premier plan, disons, d'une manière biographique et tout simplement scripturaire, au sens où il a écrit des poèmes, il n'a pas cessé d'en écrire, mais il a aussi inscrit la poésie dans la publication et l'écriture de sa philosophie, et une bonne partie des pointes très radicales de sa philosophie vise, dès le début, dès 1873, un texte qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral », à dire toute la dette des concepts à l'égard des métaphores, c'est-à-dire à l'égard aussi d'une écriture qui n'est plus simplement l'écriture systématique, argumentative, syllogistique, mais d'une écriture qui ne renonce jamais à l'effet poétique et qui puise sa source, son inspiration dans une veine poétique qui transparaît même dans les écrits aphoristiques de Nietzsche. Il a un souci de la chute, il a un souci de la syncope, il a un souci très souvent des allitérations, des assonances, il construit certaines suites d'aphorismes comme une fugue, avec le souci d'un contrepoint. Donc le musicien, le poète et le philosophe, Guillaume l'a très bien dit au début en parlant du rapport au monde que Nietzsche installe à travers cette écriture-là, c'est le rapport au monde d'un poète.
S'il y a alors autant d'allers-retours, autant de dettes réciproques, quel sens ça prend de détacher le corpus poétique et de rassembler et d'en faire une œuvre au fond autonome, Guillaume Métayer ?
Alors d'abord ça prend un sens qui est de le mettre en lumière. Jusqu'à présent il n'a pas été rassemblé véritablement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les poèmes échappaient même aux spécialistes de Nietzsche, notamment tout cet ensemble des poèmes de jeunesse, qui quand même constitue des centaines de pages.
Donc le qui n'était pas forcément destiné à être publié.
Non, c'est vrai, mais enfin, on publie de toute façon tellement de fragments poétiques, tellement de fragments posthumes de Nietzsche que c'était une espèce d'exclusion, d'exclusive un peu étrange. L'idée de les ressortir, donc pour les mettre en lumière, c'est aussi l'idée de mettre en valeur le dialogue agonistique que la poésie entretient avec la prose pour Nietzsche. Justement, cette prose poétique n'existe que parce qu'il y a des poèmes. C'est ce que Nietzsche explique lui-même, comment prose et poésie ne cessent de dialoguer, et la bonne prose est toujours en lutte avec une poésie sous-jacente. Donc en mettant en lumière ces poèmes, j'ai essayé de montrer quel était d'une certaine façon aussi le pendant, peut-être aussi dans un certain sens l'atelier de cette prose philosophique dont a parlé Marc, qui est effectivement riche de rythmes, de rimes d'ailleurs, intérieures bien sûr, de rebondissements divers et de ce que j'appellerais une sorte de synesthésie philosophique. Il y a vraiment une idée d'une... On va aux limites du langage rationnel pour essayer de faire voir des choses qui dépendent d'un substrat métaphorique dont a parlé Marc et qui est aussi un substrat de valeur.
Alors qui n'arrive pas tout de suite, comme on va le voir. Alors je parlais de votre fréquentation de Nietzsche et de la poésie de Nietzsche, Guillaume Métayer. Fréquentation tout aussi assidue de votre côté, Marc Delaunay, puisque paraît sous votre direction le second volume en pléiade des œuvres de Nietzsche, avec la collaboration d'Henri Astor. Au programme, donc, Humain trop humain, Aurore, Le gai savoir, autrement dit, la séquence de crise, hein, donc de 76 hein, à 82, hein, qui serait la séquence de l'affranchissement, en tout cas de la rupture avec Wagner, et puis aussi la séquence des premiers signes de la maladie, des premières intuitions aussi, la volonté de puissance et l'éternel retour, et puis celle de la fin, entre guillemets, de la philologie et puis du changement stylistique hein, dont on parlait à l'instant, dont il est permis de dire qu'il n'est évidemment pas sans lien avec la fabrique de son socle philosophique.
Dann bin ich glücklos, glücklos aller Orten, auf der Erde wie im Himmel, glücklos hier und dort. Stille singend hier am Bache, bei den stillen Trauerweiden, zähl ich voll von Leiden. Schauen nieder hangen diese Zweige hier in Ringen. Und sie gleichen meiner Seele
qu'on a entendu, c'est non pas un poème de Nietzsche, mais une composition de Nietzsche sur un poème de Petőfi. Alors au piano, c'était Harry Bareiman accompagnant Dietrich Fischer-Dieskau, qu'on aura reconnu, enfin en tout cas que Marc Delaunay avait reconnu. Un choix à vôtre, Guillaume Métayer. Qu'est-ce qu'un tel lied composé en 1860, c'est-à-dire que Nietzsche a 16 ans, hein, et le choix du poème qui n'est pas le sien fait entendre du rapport musique-poésie des débuts de Nietzsche, parce qu'on va bien voir que cette chose-là va bouger avec le temps.
Oui, c'est indissociable aussi. Alors, on a déjà multiplié philosophie, poésie, philologie, maintenant il faut ajouter la musique. Mais précisément, c'est peut-être ça Nietzsche, c'est-à-dire cette espèce de façon de résoudre les problèmes en accumulant pas les disciplines, c'est un peu mal dit, mais les perspectives, voilà, ce qu'il appelle d'ailleurs le perspectivisme. Hein. Et évidemment, il y a une perspective qui est liée d'une certaine façon à chaque art. Donc, Nietzsche résout comme ça les problèmes en s'ajoutant au monde, par exemple. Il se découvre dans le monde, il ajoute la subjectivité, et il regarde la subjectivité, et c'est comme ça qu'il voit mieux le monde. De la même façon, il ajoute la musique, la poésie, la philosophie, la philologie, et c'est comme ça qu'il aboutit à une espèce de vision globale de ce qu'il appelle la vie.
Alors pour autant, Guillaume Métayer, ce rapport musique-poésie, alors évidemment, alors on était en train de rassembler tout ça, mais pour autant, la poésie, dans un premier temps, en tout cas dans les premières années, et y compris dans celle-ci, hein, la poésie est davantage, est encore soumise d'une certaine façon à la musique. Elle n'a pas du tout encore la même place et la même fonction qu'elle va avoir par la suite. Hein.
Non, ou je pas. Ne dirais pas ça, en fait. Je ne dirais pas ça. Je dirais que... Justement, ce qui m'a frappé, en rassemblant tous ces poèmes, notamment de jeunesse, hein, c'est la place de la poésie. Et le fait que la poésie, finalement, occupe une place très surprenante par rapport à l'idée préconçue qu'on peut avoir d'un Nietzsche qui serait un musicien raté devenu philosophe. En fait, Nietzsche écrit de la poésie sans cesse. Il écrit des petits recueils. Alors qu'il dédie...
Au moins un poème par jour, dit-il.
Voilà, il en a, et en plus, il en a brûlé, visiblement, d'après le témoignage de sa sœur, il en a brûlé de nombreuses pages. Il dit qu'il en est, en 1858, à 14 ans, à sa troisième période poétique. Donc, vous imaginez la prolixité du jeune poète. Non, non, je ne crois pas du tout que la poésie soit subordonnée à la musique à l'époque. Elle s'émancipe de la musique dans le sens où, où Nietzsche arrête de composer. Alors qu'il n'arrête pas d'écrire de la poésie, parce que le lien profond entre poésie et philosophie reste là.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il advient autre chose de la poésie dès lors qu'il en termine avec son, je sais pas, son surmoi de compositeur, disons ?
Ça, je crois, oui. Ça, en revanche, je crois. Et je crois qu'à un moment, il comprend qu'il peut faire de la musique au second degré avec la poésie, et notamment une antithèse de Wagner. Et ça, c'est le moment épigrammatique de Nietzsche, c'est-à-dire le gai savoir dont vous parliez tout à l'heure. Le moment où il comprend qu'il fait ce qu'il appelle un prélude, un Vorspiel, in deutschen Reimen, en rime allemande, hein, le prélude du gai savoir, plaisanterie, ruse et vengeance, c'est en 1882, hein, parce que ses poèmes sont là déjà à cette époque, il comprend qu'il peut faire un prélude qui est une ironisation des grands préludes wagnériens, puisque c'est un prélude sous, en forme, on pourrait presque dire, d'opérette, mais d'opérette philosophique.
Alors les jeunes années, justement, dont on parlait à l'instant, Guillaume Métayer, alors c'est de 1854 à 1870, hein, donc vous démarrez, il a 10 ans, hein, je le disais tout à l'heure, avec un petit poème adressé à, je crois que c'est pour l'anniversaire de sa tante. Hein. Voilà, et donc au fil des pages, c'est vraiment le corpus, la séquence la plus copieuse, hein, de tout le volume, le plus important. Donc il y a là également des poèmes à sa mère, hein, mais aussi le deuil du père, peu d'amour, très peu d'amour, dites-vous, et déjà beaucoup d'amitié. Et puis il y a aussi évidemment question de conquête, de légende, des emprunts à la mythologie, les rudes hivers, les orages, les ouragans, en tout cas les forces naturelles hostiles, quelques chants de marins, le cycle des saisons, et des jours même aussi, et puis l'effroi religieux, des chants d'oiseaux, rossignol et alouette, et puis qui arrive petit à petit le mois solitaire et souffrant, et puis quelques chants de pénitence, des pensées nocturnes. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un, Guillaume Métayer, l'un de ces poèmes de ces jeunes années ?
Oui, je peux vous lire par exemple « Désespoir », « Verzweiflung », justement. « Au loin, les cloches frappent l'air, la nuit en vient, sourde rumeur. Je ne sais ce que j'aimerais faire. Morte est ma joie, lourd est mon cœur. Les heures fuient, muettes chimères, loin la cohue du monde aboie. Je ne sais ce que je veux faire. Lourd est mon cœur, morte est ma joie. Si sourde est la nuit, la lumière lunaire pleine d'un lugubre effroi, je ne sais ce que je dois faire. L'orage hurle, je ne l'entends pas. Je n'ai ni calme ni repos. Aux rives, je marche sans voix. Jusqu'aux ondes, jusqu'au tombeau. Lourd est mon cœur, morte est ma joie. » Forta, 1858. Donc Nietzsche a 14 ans.
Merci pour la lecture. Je me demandais, à la lecture justement de ces poèmes d'adolescence, hein, puisque c'est là on y est, en plein, quelle lecture transparaissait ? En tout cas, quelles sont les premières voix de poètes, si ce n'est des voix musicales, mais aussi des voix de poètes penchées sur son épaule, hein.
On voit souvent Heine, déjà, qui va être pour Nietzsche le grand poète allemand. On voit bien sûr Goethe, évidemment, mais on voit aussi Eichendorff. On voit aussi des poètes moins connus comme Hölty, qui était le poète des saisons. Un poète que Nietzsche a beaucoup aimé dans sa jeunesse, qui était Theodor Körner, qui était le Tirté allemand, c'est-à-dire un poète spartiate de la guerre contre Napoléon, de la guerre de libération, auquel Nietzsche dédie un poème qu'il imite, qui lui donne probablement aussi l'impulsion vers la Hongrie, dont on parlait tout à l'heure avec Petőfi. Donc, il y a beaucoup de poètes, et des poètes, je pense, qu'on ne connaît plus, hein, mais que des érudits pourraient retrouver en filigrane.
Alors, justement, Marc Delaunay.
Mais oui, mais il faut pas oublier, indépendamment des Allemands, que Nietzsche est baigné dans la poésie grecque et latine. Il fait ça tous les jours. Justement, le poème est écrit à Pforta, c'était l'école où Nietzsche s'est formé. L'école secondaire où Nietzsche s'est formé, essentiellement voué à l'apprentissage du grec et du latin. Et donc, Nietzsche a lu tous les jours Horace, Catulle, ce sont des poètes de l'Antiquité, certes, mais qui sont extraordinairement présents à l'époque. Et puis, il ne faut pas oublier que le rapport de l'époque à la poésie est différent d'une autre. À l'époque, il est évident que tout le monde a lu, tous les gens qui bénéficient d'une éducation qui leur permet de lire et d'écrire, c'est 5% de la population à l'époque, il ne faut pas oublier ça, sont des gens qui passent leur temps à se rendre visite, à écrire dans les albums de la maison, des vers, pour remercier de la visite ou pour saluer un autre. La poésie fait partie de la culture quotidienne.
On le voit bien d'ailleurs dans les jeunes années. Hein. C'est beaucoup de poèmes qui sont des cadeaux.
Tout à fait. C'est tout à fait normal. C'est
ça. Non, bien sûr. Mais il y en a aussi. C'est ça que je voulais dire.
Et puis, si vous avez entendu, je pense que les auditeurs l'ont entendu, il faut rendre hommage au traducteur qui est Guillaume. Parce que quand il a lu ce poème, vous avez inévitablement entendu un poème en français. Et c'est l'intérêt aussi de la traduction qu'il a faite. Il va pas le dire, mais je le dis. Non seulement, c'est la première fois que tous les poèmes de Nietzsche sont rassemblés en français dans ce volume, mais c'est la première fois qu'ils sont traduits aussi par quelqu'un qui est poète. Et qui entend la voix poétique de Nietzsche dans sa traduction. C'est une exigence que n'ont pas eu mes prédécesseurs, ou moi-même, je le confesse, quand j'ai traduit des poèmes de Nietzsche, j'ai rarement eu le bonheur qu'a Guillaume pour traduire.
Notamment au respect de la forme, et on va en parler.
Mais bien
évidemment.
Entendu.
On va évidemment en parler. Alors vous avez cité évidemment plein de voix, sauf celle à laquelle on arrive, hein, qui est celle de Hölderlin. On l'écoute tout de suite.
Évidemment.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget. Und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt im Winde klirren die Fahnen.
Grand sourire de Marc Delaunay qui bat la mesure, à mesure qu'on entend la voix de Bruno Ganz. C'est un enregistrement de 1984, hein, Hölderlin, qu'on retrouve par ailleurs encore, enfin à plusieurs reprises, hein, mais comme un écho, notamment dans l'un de ses fameux poèmes, hein, Une vocation de poète, qui est, je crois... En appendice, hein, dans l'édition de 87 du Gai Savoir, mais je peux dire une bêtise.
Non, tout à fait.
Oui.
C'est pas une bêtise.
Qu'est-ce qui le lie tant, Marc Delaunay, à Hölderlin ? Et je rappelle par ailleurs que ce qu'on vient d'entendre là, c'est vous qui me l'avez demandé.
Écoutez, on a perdu de vue avec le temps qui passe et l'écrasement de perspectives historiques le fait que Nietzsche est l'un des rares à s'intéresser à Hölderlin de son temps. Hölderlin est tombé dans l'oubli. Nietzsche le fait revivre, pas par hasard. Il a entendu cette voix extraordinaire d'un poète qui, évidemment, a attiré l'attention du philologue, puisque Hölderlin avait traduit Sophocle. Donc, il y a une proximité, disons, d'intérêt, mais aussi il y a une proximité d'appréciation esthétique du philosophe qu'est Nietzsche à l'égard du poète, et pas seulement du poète. N'oublions pas que Hölderlin, avec Schelling, avec Hegel, a jeté les bases d'un programme esthétique. Évidemment, les chemins ont divergé, mais la philosophie et la poésie étaient intimement liées pour ces trois esprits. Guillaume, évidemment, a évoqué Heine. N'oublions pas que Nietzsche a considéré Heine comme un grand poète. À l'époque où il le fait, c'est-à-dire le dernier tiers du XIXe siècle, il va bientôt être le seul à défendre Heine. Parce que Heine a quitté l'Allemagne, Heine a été juif, Heine a été en quelque sorte voué à l'antisémitisme de l'époque qui, ensuite, lui a commencé, valu d'être très longtemps banni. Heine était aussi un poète politiquement engagé, ce que Nietzsche ne suivait pas. Mais il y avait une affinité profonde qu'il y ait Nietzsche et Heine, c'était le rapport qu'ils avaient à leur langue, en considérant que l'allemand qui se parlait de leur temps n'était pas l'allemand que eux voulaient entendre parler et que eux voulaient écrire. Il y a chez Nietzsche des phrases absolument terrifiantes, acides contre l'allemand qui est en train de s'installer en Allemagne à l'époque. Quand Nietzsche dénonce le fait que les gens apprennent l'allemand dans les chancelleries et que se forge une sorte d'allemand non pas seulement académique, mais un allemand sclérosé par le langage administratif, par l'espèce de morgue des représentants de l'État, qui sont évidemment la plupart du temps prussiens, et qui n'ont pas dans l'oreille toute la richesse dialectale de l'Allemagne, dont la tension avec le Hochdeutsch crée cette espèce de langue tout à fait particulière, qui est intermédiaire entre le discours officiel et l'enracinement idiomatique. La langue que des poètes ou que des écrivains comme Nietzsche parlent. Et Nietzsche fustige très souvent les Allemands de son temps qui parlent un Allemand qui se veut moderne et qui surenchérit sur... disons, l'aspect de domination politique.
Alors, quelle langue lui oppose-t-il, justement ?
Il lui oppose la sienne. Celle qu'il écrit, celle extraordinairement légère, celle qu'il tient aussi d'un auteur d'aphorisme qui est Lichtenberg, qu'il adore, qu'il a lu, chez qui il a appris beaucoup de choses, et qui est comme une sorte de un peu... pour faire plaisir à Guillaume, je dirais, de clarté voltairienne ou de limpidité voltairienne dans un Allemand qui, sinon, serait extrêmement lourd et qui est en train aussi de devenir, à la même époque, ce qu'on appelle le Katederdeutsch, c'est-à-dire l'allemand parlé dans les chairs de l'université et qui devient très pompeux, très lourd. Alors que quand vous entendez des phrases de Nietzsche, même très longues, vous entendez quelqu'un qui compose en marchant. Vous entendez un poète qui n'oublie jamais le rythme, mais qui n'a absolument pas besoin de faire des phrases qui sont comme des cosmos, cherchant à faire rentrer l'ensemble des attributs d'un objet.
Le rythme et la pointe, oui, Guillaume Métayer.
Je pense que la langue de Nietzsche est aussi... ce que tu sous-entendais, frottée de langues étrangères. C'est une langue allemande qui est une langue qui porte en elle une espèce de... qui s'est dégermanisée, comme dit Nietzsche lui-même. Il dit être un bon allemand, c'est se dégermaniser. C'est une langue de bon européen. Et ça se voit déjà dans les poèmes de jeunesse. On voit déjà comment, on en parlait tout à l'heure, il s'intéresse à la poésie des pays environnants, la poésie hongroise, par exemple. Il met en musique aussi Pushkin, par exemple, etc. Il s'intéresse à tout un tas d'autres langues. C'est le philologue. C'est une langue allemande qui s'est nourrie de latin, de grec, de français, d'italien, au fur et à mesure, bien sûr, des années, et qui par là s'est, d'une certaine façon, allégée et internationalisée. Donc c'est un peu une langue qui ressemble à celle de Heine, qui était un grand interlocuteur de la France. Cet espace créé dans la langue, c'est aussi l'espace de l'ironie, qu'il partage avec Heine, bien évidemment, et cette capacité, assez rare dans un 19e siècle, parfois un peu élégiaque et lyrique, de mêler la tonalité, justement, lyrique et la tonalité ironique.
Y compris dans les poèmes.
Y compris dans la poésie, bien entendu.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Si on revient justement à cette traduction, à ces poèmes, peut-être une question, on y arrive un petit peu tardivement, mais sur ce manque que vous avez évoqué, Guillaume Métayer, tout à l'heure, hein, sur le manque de ce corpus. Alors évidemment, les poèmes ont été traduits, beaucoup d'entre eux ont été traduits avec plus ou moins de bonheur, de façon plus ou moins complète, plus ou moins fragmentaire, jamais dans leur ensemble. ni même en Allemagne d'ailleurs. Je crois que l'intégralité des poèmes n'ont pas été publiés ou rassemblés, en tout cas dans un même volume. Comment est-ce qu'il faut expliquer ce manque-là? Parce que j'allais dire c'est peut-être un manque français, mais non, manifestement non, puisque en Allemagne c'est le cas aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait au fond l'idée d'un Nietzsche poète qui ne serait pas assumé par la critique?
Ah oui, je crois absolument. Oui, je crois qu'en effet, l'idée, à mon avis, c'est superposer de l'échec musical en une idée d'un échec poétique. Et donc, on n'est pas allé chercher tout un tas de poèmes, notamment de jeunesse, hein, bien sûr, parce qu'on a considéré qu'au fond, c'était une espèce de magma dans lequel il n'était pas nécessaire d'aller puiser. Et c'est pourquoi cette édition contient non seulement des centaines de pages inédites en français, mais y compris un poème sur Louis XVI, ce qui m'a toujours beaucoup étonné, un grand poème sur la mort de Louis XVI, qui est un poème très intéressant, où Nietzsche compare Louis XVI au Christ et à ce qu'il appelle le sans-culotte Jésus-Christ. Donc un Louis XVI qui pardonne au peuple et qui est finalement plus sans culotte que les sans culottes, enfin une sorte de retournement nietzschéen vertigineux. Ça n'a jamais été traduit en français, c'est tout de même très étonnant. Et en même temps, en Allemagne, eh bien, ça a été édité dans les œuvres complètes, sans beaucoup de soin, il faut le dire, avec notamment des textes qui ne sont pas de Nietzsche, que la sœur de Nietzsche parfois avait mis en avant comme des textes de Nietzsche, tel chant patriotique qu'il avait simplement recopié dans un journal. On parlait de la présence de la poésie dans la vie quotidienne, c'était le cas par exemple. Voilà, donc en effet je crois que ce corpus a été négligé pour cette raison, parce que la poésie a été d'une certaine façon mise de côté.
Marc Delaunay, j'imagine que éditer Nietzsche en Pléiade, et un volume reste encore à venir, c'est aussi à un moment donné forcément réfléchir à la portée de la poésie dans son œuvre d'écrivain et de penseur. Comment cette question-là s'est-elle solutionnée chez vous? Quelle place lui avez-vous accordée?
Écoutez, c'est plutôt pour le volume 3 que les problèmes vont se poser à cause du Zarathoustra et de la retraduction nécessaire du Zarathoustra avec Dorian, avec qui on a étroitement collaboré sur cette traduction.
Dorian Astor,
oui, avec qui a beaucoup écrit sur Nietzsche aussi, et qui est par ailleurs un excellent germaniste. Nous avons pris le parti vraiment de ne pas surenchérir sur l'allégorisme qui est présent dans le Zarathoustra, mais essayer quand même de faire entendre les passages où la verve poétique nietzschéenne est réelle. C'est indéniable. Il y a beaucoup d'inégalités de niveau de style dans le Zarathoustra. Il y a des réussites absolument incontestables et des moments qui sont plutôt laborieux, tout simplement parce que Nietzsche déguise ce qu'il veut dire en l'habillant d'un lexique qu'il force. Mais par moments, il est au mieux, disons, de sa forme stylistique, et c'est éblouissant de virtuosité lexicale, de virtuosité syntaxique. Ce sont des choses qu'on rencontre quand même rarement dans la philosophie de l'époque.
On a parlé tout à l'heure, Guillaume Métayer, Marc Delaunay, de ces allers-retours philologie, poésie, musique, philosophie. On aurait pu y ajouter folie, j'imagine. Une toute petite parenthèse. Alors, effectivement, on a un petit peu délaissé la poésie, mais j'imagine que s'il ne restait qu'un vers, ce serait celui-là. Rien qu'un fou, rien qu'un poète. Surcommenté, arraché d'ailleurs à son poème, en général, hein, qui est un long poème. Donc nur ein Dichter, qui ne pose pour le coup pas trop de problèmes de traduction, j'imagine, Guillaume Métayer. Quoique,
toujours des problèmes,
il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce que ce vers finalement met en jeu? C'est encore là, au fond, la folie qui serait le lien entre poésie et philosophie, puisqu'on en est à faire des liens et des nœuds partout.
Alors, en effet, le thème de la folie, mais dans ce sens-là, dans le sens du nar, hein, c'est vraiment un thème très important de la poésie de Nietzsche. C'est un thème érasmien. C'est le thème du fou aussi, au sens de la nef des fous. En fait, hein, c'est le thème du renversement du monde. Au fond, c'est le thème carnavalesque qui est à mettre en relation avec l'inversion des valeurs. l'inversion des valeurs du jour des Saturnales, du jour des fous, eh bien, c'est ce que fait d'une certaine façon Nietzsche. Bien sûr, il fait une inversion des valeurs qui n'est pas temporaire, qui n'est pas provisoire, qui veut casser l'histoire de l'humanité en deux. Il veut remettre l'humanité sur ses jambes, ou bien sur sa tête, je ne sais pas, comme un fou justement, un fou qui serait une sorte de toupie. Et donc la poésie lui sert à ça, c'est ce qu'il exprime sans cesse dans sa poésie, avec ironie. Je suis comme quelqu'un du carnaval, mais évidemment c'est avec ironie. Et donc l'ironie vient renforcer le jeu, et en même temps, ce jeu est sérieux. C'est bien sûr la philosophie de Nietzsche. Et la nouvelle datation.
Qu'on retrouve évidemment dans les épigrammes, en prélude du Gai Savoir.
Non, nos dichter, c'est exactement, si on veut bien entendre les résonances, comme l'a dit Guillaume, il y a le bouffon, donc le rire. Et le rire comme acte philosophique que Nietzsche entend faire entendre et raisonner. Il y a aussi la mania, la folie, entre guillemets, du philosophe, qui se trouve chez Platon, et que Nietzsche a bien retenu. Les philosophes sont des maniaques, c'est-à-dire qu'ils ont la passion et la folie, du moins c'est comme telles qu'elles apparaissent aux yeux des autres hommes, d'innover, de produire quelque chose de nouveau, de faire craquer les anciennes valeurs, comme dit Nietzsche. Et le poète, eh bien, Nietzsche a toujours voulu, en écrivant le Zarathoustra notamment, c'est très clair, trouver un nouveau style pour celui qu'il appelle, c'est-à-dire lui-même, un poète-prophète. Ce poète-prophète, c'est très exactement une désignation de ce qu'il pense être, doit parler un discours nouveau. Et Nietzsche l'a cherché à travers le Zarathoustra, comme il l'a cherché à travers la poésie. Alors, on peut effectivement dire, bon, il ne l'a pas trouvé. Lui-même en était conscient. Mais il n'a pas cessé, par la suite, de vouloir écrire des suites du Zarathoustra. Il a abandonné ce projet, mais ça se révèle dans cette espèce de merveille insolite dans toute l'histoire de la philosophie, qui est Ecce Homo, qui est un ouvrage de la fin 88, qui est paru après sa mort, évidemment, mais qui est véritablement quelque chose qui est une irruption dans l'histoire de la philosophie, d'un texte qu'aucun philosophe jusque-là n'avait pu écrire. Même pas les Confessions de Rousseau ou même les Essais de Montaigne. Ça n'a pas cette provocation-là que Nietzsche a cherché.
Heldenklage, quelques notes de piano composées par Nietzsche à nouveau et interprétées par Michael Krücker. Et retour donc à sa poésie avec vous Marc Delaunay, Guillaume Métayer, et un point crucial pour l'un comme pour l'autre. Alors vous l'avez déjà évoqué un peu Marc Delaunay, hein, l'un et l'autre menant une activité, disons, commentée, théorisée de traducteur. Marc Delaunay, ce sera même pour vous l'objet d'un essai paru chez Vrin en 2006, hein, « Qu'est-ce que traduire ?» Quant à vous, Guillaume Métayer, on a le sentiment, à lire votre introduction au poème de Nietzsche, qu'il s'agit tout autant de présenter ses poèmes que de défendre une certaine position du traducteur de poésie. Alors en l'occurrence, pour ce qui est de Nietzsche, il s'agit, dites-vous, de considérer la traduction la plus poétique possible. Hein. L'enseignement de Nietzsche, ou en tout cas de la poésie de Nietzsche, au traducteur que vous êtes, hein, ce serait quoi au fond? Ce serait celui de, comme vous dites, d'une danse dans les chaînes,
hein. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de poèmes et j'ai voulu les traduire en respectant la forme de ces poèmes autant que possible, dans une sorte de dosage à la fois un peu arbitraire en fait. Hein.
Mais quand même globalement, c'est-à-dire les vers réguliers et les rimes en tout cas.
Des vers réguliers et des rimes qui ne sont pas des rimes maniaques. C'est pas forcément je respecte pas forcément l'alternance des rimes masculines et féminines. Je vais pas forcément rimer un singulier avec un singulier, un pluriel avec un pluriel. C'est pas.
Mais jusqu'ici, c'était quand même plutôt traduit en vers libres. Je pense que les traductions que nous on connaît en français, je pense à celle de Klosowski notamment. Ce sont des traductions en vers libres.
Alors, la traduction de Klosowski est probablement la meilleure traduction hein, qui existe des poèmes de Nietzsche. Mais il existe aussi beaucoup de traductions qui, comme le disait un peu Marc tout à l'heure, ont été faites, disons, par des gens dont la spécialité est plutôt la philosophie et qui, quand ils rencontrent des poèmes, vont effectivement à la ligne au même moment que le poème. Dans le cas de Nietzsche, j'ai voulu quand même, pour un certain nombre de ses poèmes, traduire en effet en forme, c'est-à-dire en rime, avec en rythme, pour donner une idée de ce qu'est le texte original, de ce qu'est son esthétique, aussi pour dater cette esthétique, c'est-à-dire montrer qu'il s'agit d'un poème de 1870. Et que ça doit ressembler à un poème de 1870. Et si on le traduit en vers libres, en fait, ça devient un poème de 1910. C'est-à-dire qu'en fait, on projette sur Nietzsche une esthétique qui est la nôtre. Parce qu'au fond, on a une esthétique du vers libre, même si c'est un peu en train de changer. Il y a beaucoup de poètes qui reviennent à des formes plus fixes hein, en ce moment, bien sûr. Mais quand même, on projette sur un poète de 1860, 70, 80, une esthétique qui n'est pas la sienne et qui n'est pas celle de son temps. Et qui n'est pas donc celle dans laquelle il fait de la poésie philosophique. Qui est une autre esthétique. Et qui d'ailleurs est une esthétique, à mon avis, un peu de rigueur. C'est-à-dire qu'on traduit en vers libre comme on traduisait en vers en alexandrin au XVIIIe siècle. Vous prenez l'abbé de Lille, il traduisait Virgile en alexandrin avec des rimes, donc il rajoutait du texte. Et au fond, tout le monde trouvait que la poésie, c'était ça. Et de la même façon, on pense que la poésie, c'est, d'une certaine façon, le vers libre. Au XIXe siècle, on pensait que là où il n'y a pas de rime, il n'y a pas de poésie. Il y a une tendance parfois à penser que là où il y a de la rime, il n'y a pas de poésie. Je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, et qu'au fond, on a en même temps une façon assez simple de se comporter vis-à-vis de ces poèmes, c'est-à-dire que si ce sont des poèmes rimés, si le poète, qui est le cas de Nietzsche, a fait lui-même une apologie de la forme, de la contrainte formelle, a lui-même appelé ça des rimes, hein, un Vorspiel in Deutschen Reimen, hein, un prélude en rimes allemandes, autant peut-être écouter quand même ce que nous dit le poète, et essayer de le traduire avec une forme de fidélité, mais surtout pas une fidélité maniaque et obsessionnelle qui transformerait pour le coup qui aurait un risque de transformer le poème en une espèce de d'exercice qui deviendrait presque un corps mort.
Alors, ça veut dire que, si je vous entends bien, Guillaume Métayer, c'est qu'on l'aurait peut-être davantage traduit ici en philosophe. Vous parlez même de déphilosopher, d'une certaine façon, la poésie de Nietzsche, hein, en tout cas dans votre geste de traducteur. Et alors, en faisant quelques détours, ça nous ramène à votre autre champ. Alors, d'une part, rappelez que, par ailleurs, vous êtes poète et traducteur du hongrois, et vous évoquez dans l'introduction aussi d'ailleurs la façon dont les Hongrois ont pu traduire Nietzsche, sans doute d'une façon très différente, c'est-à-dire davantage traduit en poète, que nous l'avons fait, en tout cas en France. Est-ce que vous diriez qu'au fond, votre expérience de la traduction en passant par le hongrois vous aura été d'un quelconque secours pour traduire Nietzsche en français?
C'est très clair, mais bien sûr, d'une part, la traduction de poésie hongroise m'a aidé, notamment parce que Nietzsche s'est beaucoup nourri de poésie hongroise lui-même. Donc, de toute façon, traduire Petőfi, c'était une sorte de préparation à traduire Nietzsche et vice-versa. D'un autre côté, bien sûr, la tradition de traduction des autres pays européens, en particulier en Europe centrale, est très différente de la tradition française. La tradition française me semble très marquée par une espèce d'idéologie de la modernité, au fond. Voilà, donc il y a une rupture, une grande rupture, on a abandonné toutes ces formes, et maintenant, la modernité, elle s'exprime de cette façon-là. Certes, mettons, mais admettons, mais il n'empêche qu'en dans un pays comme la Hongrie, on traduira, on se posera même pas la question de savoir si, quand un poème est rimé, par exemple, on utilisera des rimes ou pas. On le fait quasiment de toute façon. Et ça paraît absolument naturel, difficile, mais faisable. Et de fait, en s'exerçant, on se rend compte que c'est difficile, mais faisable. Alors pourquoi s'en priver?
Est-ce que vous voulez bien, Guillaume Métayer, nous faire lecture d'un poème? Dans votre traduction, donc, alors moi je pensais à un en particulier qui est un poème de 1871 qui s'appelle « À la mélancolie ». Et puis peut-être nous expliquer aussi en quoi ce poème-là en particulier vous semble si crucial.
Exactement, c'est un poème très important. « À la mélancolie, ne t'irrite pas contre moi, mélancolie, si j'affûte ma plume afin de te chanter. Au lieu, la tête sur les genoux renversée, ermite sur sa souche de rester assis. Tu me vis bien souvent ainsi hier encore, dans les brûlants rayons du soleil matinal. Un avis de vautour criaillait dans le val. Il rêvait d'un corps mort au bout d'un poteau mort. Mais tu faisais erreur, atroce oiseau, malgré juché sur mon rocher mon aspect de momie. Tu n'as pas aperçu l'œil plein de volupté qui çà et là roulait, farouche et réjoui. Et s'il ne filait pas jusque dans tes hauteurs, mort pour les houles trop lointaines des nuées, il n'en plongeait ses yeux que plus en profondeur, dans l'abîme de l'être, afin de l'éclairer. Souvent dans un désert profond, assis ainsi, courbé, hideux, tel le barbare sacrifiant, c'est par déférence envers toi, mélancolie, que je me suis, si jeune encore, fait pénitent. J'étais assis réjoui du vol du vautour et du tonnerre des avalanches roulantes. Tu me parlais incapable d'humain détour, vrai malgré tes airs d'une rigueur effrayante. Ô rude déité des rochers violents, qui aimes apparaître ami à mes côtés, me signaler les pas du vautour menaçant et l'avalanche qui aspire à me nier. Partout la pulsion de meurtre aux dents grinçantes siffle cruel désir de s'adjuger la vie. Sur son amas de rocs inertes séduisantes, la fleur lointaine après les papillons languis. Tout cela je le suis, je le sens, j'en frémis, le papillon séduit et la fleur esselée, le vautour, le torrent brutal aux eaux transies, les cris de l'orage, tout pour ta renommée, dure déesse à qui, inclinée, je gémis, tête dans les genoux, un péant effrayant, ce n'est que pour ta renommée si je languis, pour la vie, la vie, la vie, inlassablement. Ne t'irrite donc pas, ô déité féroce, si je tresse ton nom de rime doucereuse. Il tremble celui qu'approche ta face atroce, il tressaille celui qu'atteint ta dextre affreuse. Et tout tremblant, je bégaye chant sur chant ici, et tressaille selon des figures rythmées. L'encre coule à flot, la plume affûtée jaillit. Déesse, déesse, laisse-moi raisonner.
Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui ferait de ce poème un poème dans lequel quasiment dater une révolution philosophique en marche?
Alors c'est un poème qui est très intéressant parce qu'en fait il s'inscrit dans une tradition poétique très importante en Allemagne qui est l'hymne à la mélancolie. Depuis le XVIIIe siècle, les poètes allemands écrivent des hymnes à la mélancolie et ça donne lieu alors à des allégories ou bien à des descriptions de tableaux, des ekphrasis, notamment de Dürer. Et Nietzsche aimait beaucoup Dürer. Mais Nietzsche, lui, va utiliser cette tradition poétique de l'hymne à la mélancolie pour s'expliquer avec le pessimisme schopenhauerien. Donc il va se représenter lui-même comme poète dans les en fait là c'est un paysage alpestre hein, dans les hauteurs suisses qu'il fréquentait puisque évidemment il était à Bâle et donc c'était l'été 1871.
Il enseignait à Bâle.
Et il se représente et il réinvente un paysage à la fois le paysage suisse traditionnel de montagne, cet hymne à la mélancolie, il le réinvente comme une espèce de Tartare grec avec le vautour de Prométhée hein, et un poète pénitent, c'est-à-dire au fond un poète pessimiste. Et qu'est-ce qu'il comprend dans cette nature? Il comprend qu'en fait, il appartient à la nature. Il sort de la, il prend conscience de l'immanence, on pourrait dire, et il comprend que la cruauté, cette pulsion de meurtre qui l'entoure, il la porte aussi en lui. Et qu'au lieu de rester un pénitent pessimiste, schopenhauerien, il n'y a pas d'autre solution que d'affirmer cette violence, en fait, hein, c'est un poète et un philosophe très violent, cette violence qui l'environne et qui est en lui, et cette violence, il l'appelle la vie. Et c'est totalement étonnant le fait que, vous l'avez entendu, le mot vie est répété 3 fois, ce qu'on voit quand même assez rarement dans un poème, « nach Leben, 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 Lex ». C'est quand même assez extraordinaire. Donc, d'ailleurs, la première fois que j'ai traduit, j'avais pas vu ça. J'avais traduit la vie, la vie. Et bien, enfin, je me dis, mais il le dit 3 fois, vraiment. Il dit 3 fois la vie. C'est-à-dire que, à mon avis, à ce moment-là, il commence à comprendre qu'on peut sortir du pessimisme par ce qu'il appellera plus tard la volonté de puissance.
C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, c'est le moment où le pessimisme va changer un peu de régime ou changer de nature. Je sais pas comment.
Exactement. C'est-à-dire qu'on passe d'un pessimisme, d'un pessimisme négatif, ascétique. Hein, il se décrit comme un pénitent sur un poteau mort, comme un Christ et un Prométhée à la fois, que le vautour vient creuser de son bec cruel. Et il comprend qu'en fait, tout l'univers, y compris la fleur, le papillon, etc., sont animés par la vie, avec effectivement le côté négatif de l'existence et de la vie, hein, plutôt que de l'existence d'ailleurs, de ce qu'il appelle la vie. Et donc on pourrait dire qu'en 1871, la poésie de Nietzsche est en avance sur sa philosophie, sur sa philosophie thétique, sur les thèses qu'il va ensuite développer, puisqu'on est avant la naissance de la tragédie, qui paraît en 1872, où là, le salut du pessimisme est purement esthétique dans la forme tragique. Il n'est pas encore une affirmation, il est aussi une affirmation de la vie, bien sûr, mais peut-être pas de la violence de la vie, et donc de la volonté de puissance. Je ne sais pas ce qu'en pense Marc.
Si, je suis ravi que tu aies lu ce poème. Parce qu'on voit très bien comment le travail artistique, le travail poétique sur la langue, hein, est aussi un travail qu'on pourrait appeler logopéique. C'est-à-dire, c'est pas une épopée, évidemment, que Nietzsche a écrit, c'est une logopée. Et cette logopée est une anticipation, c'est ça la vertu du travail artistique, une anticipation de ce qui va être la vie, qui ne peut pas encore formuler sous les termes de volonté de puissance, mais il sent très bien que la définition dont il dispose à l'époque de la vie est insuffisante. Et que le pessimisme schopenhauerien, en substantialisant tout le temps la volonté, ne rend pas compte de la vraie cruauté que Nietzsche pressent, devine à l'œuvre dans la vie. Donc il y a vraiment un travail très intéressant du philosophe qui, en quelque sorte, va anticiper, grâce à la poésie, sur ce qu'il va développer ensuite. Et cela ne peut se faire qu'en étant plongé comme il l'est dans les virtualités des traditions esthétiques. Les hymnes à la mélancolie sont une tradition esthétique. C'est précisément le travail du génie que de s'installer à l'intérieur d'une tradition et de la faire voler en éclats, de lui faire dire ce qu'elle n'a pas encore dit, mais qu'elle pourrait dire. Et voilà le travail que fait Nietzsche.
Guillaume Métayer, Marc Delaunay, c'est déjà la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous et bon après-midi à toutes et à tous.
Qu'est-ce que tu veux dire, Marc, quand tu dis qu'avec Dorian Astor, vous n'avez pas voulu insister sur l'allégorisme de Zarathoustra ?
On n'a pas cherché, comme Maurice de Gandillac, par exemple, à écrire une sorte de forme en français spéciale. Lui avait puisé dans un français plus ou moins archaïsant. Bon. Je pense que vraiment c'était une erreur de faire ça. Parce qu'au contraire, il faut être le plus possible attentif à la manière dont Nietzsche poétise sans poétiser, c'est-à-dire cherche tout simplement une nouvelle langue, un nouveau style pour dire ce qu'il a dit comme poète prophète. Il le dit explicitement dans une lettre à Peter Gast. Il dit, il me faut un autre style pour ce que j'ai à dire en tant que poète prophète. Et c'est vrai que le Zarathoustra est un essai de le dire. Il n'en était pas lui-même satisfait, puisque après avoir écrit la quatrième partie du Zarathoustra, qu'il a publié à compte d'auteur, à 40 exemplaires, il a commis Peter Gast pour aller rechercher les exemplaires dont il... Parce qu'il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Mais ça ne l'a pas empêché de commencer à écrire une cinquième partie. Donc on voit bien le travail que Nietzsche fait à ce moment-là, qui est vraiment un travail sur... pas simplement la langue, pas simplement dans un travail poétique, esthétique. Non, c'est un travail en profondeur sur une réforme du style de communication des pensées théoriques. Il n'y est pas parvenu, je dirais, pour formuler une hypothèse, précisément parce qu'il était poète et pas romancier, ou tout du moins pas prosateur, pas un prosateur de fiction. Je pense qu'il aurait été plus heureux en tant que qu'écrivain de fiction qu'en tant que poète. Bon, c'est une hypothèse. Je pense qu'ensuite celui qui a pris le relais dans ce domaine-là, c'est Walter Benjamin, dans des textes théorico-poétiques ou plutôt théorico-fictionnels, comme Enfance berlinoise ou Sens unique.
Et la place de l'allemand de la Bible de Luther dont il parle pour l'écriture de Zarathoustra, comment vous l'avez traitée dans la traduction ?
Ah ben, elle est présente en permanence. C'est-à-dire que j'ai indiqué à chaque fois qu'il y avait des allusions tout à fait directes. Nietzsche n'en est lui-même, pour ainsi dire, je pense, pas toujours conscient. C'est-à-dire quelque chose qui fait partie de l'aspect académique de sa langue.
Parce qu'il le dit quand même.
Oui, il le dit. Il a l'intention d'écrire un disangile. Hein, donc, bien évidemment. Mais il sait ça par cœur. Il a appris ça par cœur. C'est tissé avec l'allemand qu'il a appris enfant. Donc, bon, il y a des allusions, mais à foison aux évangiles, et pas seulement des allusions. Parfois, il y a des parodisations là, nécessairement conscientes. Nietzsche déforme de manière ironique pour susciter un rire chez ses contemporains. Évidemment, quand nous lisons ici en français ces textes-là, ça ne nous saute pas aux yeux. Il faut des notes, hein, c'est inévitable.